Chapitre 4. Chassé-croisé. Je vis que je m'étais trompé en me croyant cuirassé contre les coups du sort. Les paroles du domestique d'Oscar détruisirent complètement cette illusion. Ce dernier coup dépassait tout ce que j'aurais pu prévoir de plus terrible en fait de malheur. Je restais pétrifié en songeant à Lucille et regardais d'un air égaré le domestique auquel je n'avais pas la force de parler malgré tous mes efforts. Mais si je demeurais muette, le domestique n'avait pas perdu l'usage de sa langue. Un fait des plus bizarres, c'est l'espèce de plaisir mélancolique, si je puis m'exprimer ainsi, qu'éprouvent les personnes qui appartiennent aux classes inférieures de la société à vous raconter leur malheur. Ce rôle de victime du sort semble les rehausser dans leur amour-propre. Le domestique d'Oscar prenait donc un plaisir lugubre à se lamenter sur sa propre position en s'écriant qu'il avait perdu le meilleur des maîtres, qu'il lui faudrait se mettre en quête d'une nouvelle place et qu'il n'en trouverait jamais de pareille à celle qu'il lui faudrait quitter. Il me fit enfin, par son bavardage qui m'agaçait les nerfs, retrouver la parole. « Monsieur Oscar est parti seul ?» lui demandai-je. « Oui, madame, tout seul. » Oscar accaparait tellement mon intérêt que je ne demandais pas au domestique ce qu'était devenu Nugent. « Quand votre maître est-il parti ? » continuai-je. « Un peu plus de 2 heures maintenant. Pourquoi ne m'a-t-il pas averti plus tôt ?» Monsieur Oscar m'a défendu de le dire avant que ces 2 heures fussent écoulées. Cette réponse me rendit encore très triste. Cette recommandation faite au domestique semblait indiquer, de la part d'Oscar, un dessein prémédité, non seulement de quitter Dymchurch, mais encore de nous cacher sa destination. « Monsieur Oscar est-il allé à Londres ?»« Il a loué la voiture de Goodridge pour aller à Brighton. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a déclaré lui-même qu'il quittait les sables pour n'y jamais revenir. »« Pour n'y jamais revenir ?» En songeant à Lucille, je refusais d'ajouter foi à cette affirmation. Cet homme pouvait exagérer ou avoir mal compris. La lettre que je tenais à la main me rappela que je lui faisais des questions sur des détails que cette lettre me donnait peut-être. Mais avant de le renvoyer, j'abordai le sujet qui me répugnait tant. « Où est Monsieur Nugent ?»« Au sable. »« Est-ce qu'il va y demeurer ?» « Je n'oserais l'affirmer, madame. Rien ne fait présager son départ et il n'en a aucunement parlé. » J'eus peine à me contenir en entendant ces paroles. J'étouffais d'indignation. Il fallait, pour ne pas éclater devant le domestique, le renvoyer en lui souhaitant le bonsoir. Je pris cependant la précaution de lui faire une dernière question. « Avez-vous parlé à quelqu'un au presbytère du départ d'Oscar ?»« Non, madame. » N'en soufflez mot à qui que ce soit. Merci de la lettre. Bonsoir. » Ayant ainsi pris mes mesures, pour que rien de ce qui venait de se passer ne parvint aux oreilles de Lucille, pour ce soir du moins, je m'en retournai m'excuser auprès de Herr Grosse, en lui déclarant, ce qui du reste était la stricte vérité, que je me sentais un besoin urgent d'aller prendre un peu de repos. Je trouvai mon illustre convive qui, mû par un intérêt touchant pour moi, était en train de couvrir d'une assiette le dernier plat de notre festin afin qu'il ne refroidît pas. « Quelle délicieuse omelette au fromage » s'écria-t-il en me voyant entrer. « J'en ai déjà mangé les 2/3 et je fus sang et eau pour vous garder le reste au chaud. Asseyez-vous, montame, et mangez. Plus vous attendrez, plus elle se refroidira. » « Merci bien, Herr Grosse, mais je viens d'apprendre de bien tristes nouvelles. »« Harcote, vous ne m'en dites rien !» s'écria l'égoïste d'un air consterné. « Après le dîner que je viens de manger, je ne veux pas entendre parler de choses tristes. Laissez-moi digérer en paix, ma bonne chère Tam. Ne troublez pas ma digestion si vous m'aimez. »« Alors permettez-moi de vous laisser digérer et de me retirer. » Le docteur se précipita vers la porte et l'ouvrit. « Oh oui, oui, je vous le permets de tout mon cœur. Oui, ma pauvre montame Pratolungo, allez-vous-en, allez-vous-en. » À peine avais-je passé le seuil que la porte se referma sur moi. J'entendis ce vieux monstre se réjouir en se frottant les mains de nous avoir ainsi mis à la porte, mon chagrin et moi. J'allais entrer dans ma chambre quand l'idée me vint de prendre quelques précautions pour ne pas être surprise par Lucille pendant que je lirais la lettre d'Oscar. J'avoue que j'hésitais à rompre le cachet, car malgré ma résolution de ne pas ajouter foi aux paroles du domestique, je commençais à craindre que la lettre ne vînt les confirmer en m'apprenant que celui qui l'avait écrite nous avait quittés à tout jamais. Je revins sur mes pas et j'entrai dans la chambre de Lucile. Une veilleuse qui brûlait dans un coin et qui donnait juste assez de lumière pour les allées et venues de la nourrice et du médecin me permit de la voir assez vaguement. Elle était assise dans la petite chaise qu'elle affectionnait particulièrement, les yeux couverts de son bandeau blanc et tricotant. Elle me sembla avoir un air fort satisfait. « Ne vous sentez-vous pas bien seule, Lucile ?» Elle tourna la tête de mon côté et me répondit de son ton le plus gai « Pas du tout, et je suis très heureuse. Pourquoi Zila n'est-elle pas avec vous ?»«
Je l'ai renvoyée. » »«
Renvoyée ?»«
Oui, je voulais être seule pour jouir de tout mon bonheur. Pensez donc, ma chère, je l'ai vue de mes propres yeux. Comment pourrais-je ressentir de l'ennui ? Au contraire, je me sens si heureuse que je suis forcée de tricoter pour me contenir. Tenez, si vous en dites plus long, je me mets à danser de joie. »
« Où est Oscar ?
Cet affreux grosseux !
Suis-je assez ingrate pour parler ainsi du pauvre cher homme qui m'a rendu la vue ? Et cependant, il est bien cruel de refuser à Oscar la permission de venir me voir sous prétexte que je suis trop agitée. À propos, était-il avec vous tout à l'heure et s'est-il montré bien fâché de ne pouvoir me voir ? Dites-lui que depuis que je l'ai vu, je pense à lui. Mes pensées sont si nouvelles. »
« Mais il n'est pas au presbytère ce soir, ma chère Lucile. »«
Alors il est au sable avec son pauvre frère. J'ai pu enfin surmonter le sentiment de terreur que m'inspire l'affreuse figure de Nugent. Je commence même, quoique je ne l'ai jamais aimé, à ressentir une certaine sympathie pour son état. Tenez, n'en parlons plus, j'aime mieux penser à Oscar. » Elle reprit son ouvrage et s'absorba dans ses rêves de bonheur. N'était-ce pas déplorable pour moi, après ce que je venais d'apprendre, de la voir et de l'entendre ? J'eus peur de dire un mot de plus et je fermai la porte sans bruit. Puis je priai Zila de dire à sa maîtresse quand elle sonnerait que, fatiguée par les événements de la journée, j'étais allée me reposer. Enfin j'étais seule et je n'avais plus à user d'aucun subterfuge vis-à-vis de moi-même pour ouvrir la lettre d'Oscar. Ayant fermé la porte, je brisai le cachet et lus ce qui suit. Bonne et chère amie, pardonnez-moi si je vous cause une pénible surprise. Je viens vous remercier de toutes les bontés que vous avez eues pour moi et vous dire adieu pour toujours. Je demande toute votre indulgence. Lisez ma lettre jusqu'au bout et vous saurez tout ce qui s'est passé après mon départ du presbytère. Quand j'arrivai au sable, je demandai où était Nugent. Personne ne l'avait vu. Ce ne fut qu'un quart d'heure après mon arrivée que je l'entendis qui m'appelait à la porte et qui demandait si j'étais revenu. Il vint me rejoindre dans la salle à manger. Voici quelles furent ses premières paroles. « Oscar, je suis venu te demander pardon et te dire adieu. » Ces quelques mots m'allèrent droit au cœur. Il en aurait été de même pour vous si vous aviez entendu de quel ton, ton que je ne peux rendre ici, il les prononça. J'en fus tellement ému que je n'eus pas la force de lui répondre et je ne pus que lui tendre la main. Il soupira amèrement et refusa de la prendre. « J'ai, dit-il, un aveu à te faire. Tu me donneras la main ensuite, si tu peux. » Il refusa le siège que je lui montrai et me fit de la peine en se tenant debout devant moi comme s'il était mon inférieur. Il continua. « Non, j'ai besoin de tout mon sang-froid et de tout mon courage. Je me sens brisée en vous faisant savoir ce qu'il m'a dit, et cependant j'ai pris la plume pour vous raconter sans détour tout ce qui s'est passé entre lui et moi. Hélas, je vous donne là un autre exemple de ma faiblesse, car je ne puis y réussir, et les larmes me viennent aux yeux quand j'essaie de me rappeler les détails de cette entrevue. Je puis vous dire en trois mots l'aveu que m'a fait Nugent. Vous allez être bien peinée et surprise en l'apprenant. Nugent aime Lucile. » Quelle découverte pour moi, qui avais vu mon innocente Lucile se réjouir en le voyant pour la première fois et frémir rien qu'à mon aspect. Je renonce à vous dire mon angoisse. Nugent me tendit la main après qu'il eut fini de parler,
comme je venais de la lui tendre un instant auparavant. « La seule réparation que je puisse vous offrir, à toi et à elle, dit-il, c'est de partir pour que vos yeux ne retombent jamais sur moi. Donne-moi une poignée de main, Oscar, avant que je te quitte. » Si j'avais voulu, il m'aurait quitté. Il n'en fut pas ainsi, et vous allez voir comment. Je posai la lettre d'Oscar un instant sur la table. Elle me mettait dans une telle colère et m'inspirait des regrets si cuisants que je fus sur le point de la déchirer sans lire le reste et de la fouler aux pieds. Après avoir trempé mon mouchoir dans l'eau et me l'être appliqué sur le front, je fis quelques pas dans la chambre, ce qui me remit et me permit de reprendre la lecture de la lettre en chassant de mon esprit mes pensées sur Lucille. Oscar continuait ainsi. « Je puis écrire avec calme ce que j'ai encore à vous dire. Vous saurez ce que j'ai décidé de faire et ce que je fis. » Je priai Nogain de m'attendre, tandis que j'allais réfléchir seul à ce qu'il venait de m'apprendre. Il voulut s'opposer à ma sortie, mais j'insistai, et pour la première fois de ma vie, ce fut moi qui pris une décision et lui qui m'obéit. Je le quittai et m'en fus faire un tour dans la vallée. La tranquillité céleste de la campagne solitaire me fit du bien. Je vis la position de Nugent et la mienne sous leur véritable aspect, et avant de revenir, j'étais décidé à me sacrifier, coûte que coûte, à la place de mon frère qui s'était offert. Je sentis, pour Lucille et pour lui, que c'était moi qui devais partir, et non pas lui. Ne me blâmez pas et ne vous lamentez pas. Lisez le reste de ma lettre en tâchant de penser comme je pense en l'écrivant. D'après ce que je savais de Nugent et ce que j'avais vu moi-même, avais-je le droit d'exiger que Lucille tînt ses engagements envers moi? Je suis fermement convaincu que non. Après lui avoir inspiré de la terreur et du dégoût au moment où je me présentais à ses yeux pour la première fois, après l'avoir vue se jeter toute innocente et joyeuse dans les bras de Nugent, comment aurais-je pu la réclamer comme ma fiancée? Notre mariage était devenu impossible et je n'osais, en songeant à Lucille, invoquer l'engagement qui nous liait. La destruction de mon bonheur n'était rien. Détruire le sien eût été un crime. Non, je la relève de son engagement envers moi et je lui rends sa liberté. Je ne fais, selon moi, que remplir mon devoir envers Lucille. Passons maintenant à Nugent. C'était lui qui avait sauvé l'honneur de la famille en m'évitant une mort honteuse sur l'échafaud. Je lui en devais une reconnaissance éternelle. L'homme qui aime Lucille et celui qui m'a sauvé la vie ne font qu'un. Je dois lui laisser le champ libre s'il veut mériter l'amour de Lucille d'une manière loyale et honnête. Qu'on montre à Lucille, aussitôt que Grosse le permettra, l'erreur qu'elle a commise par ma faute et qu'on lui donne à lire cette lettre que j'écris aussi bien pour elle que pour vous et que mon frère lui raconte ensuite ce qui s'est passé ici, ce soir, entre lui et moi. Elle l'aime en croyant que c'est moi qu'elle voit. L'aimera-t-elle lorsqu'elle sera désabusée? C'est autant à répondre à cette question. Si elle vient à aimer Nugent, j'ai déjà résolu de mettre de côté une partie de mon revenu chaque année pour permettre à mon frère de suffire aux soins de son ménage. Je veux que son génie, libre des entraves que pourrait y apporter le manque d'argent, se développe en liberté. Mes goûts sont simples et je ne vois pas comment je pourrais employer l'excédent de ma fortune plus noblement et plus utilement. Voilà mon devoir envers Nugent tout tracé. Maintenant que vous voilà éclairé sur la décision que j'ai prise, je puis vous raconter le reste en deux mots. J'ai quitté les sables à tout jamais et je suis parti pour vivre ou mourir loin de vous tous après le coup qui me frappe. Peut-être, dans bien des années, reverrai-je Lucille entourée de ses enfants et pourrai-je presser sa main en retrouvant une sœur dans celle que j'adore et qui aurait pu être ma femme. Cela peut arriver si je vis encore. Mais si je meurs, personne n'entendra parler de ma mort, qui ne viendra pas ainsi attrister leur bonheur. Pardon et oubli, voilà tout ce que je vous demande, et gardez la plus chère et la plus noble espérance de l'homme, l'espérance de la vie future. Je vous envoie, dans le cas où vous voudriez m'écrire, l'adresse de mon banquier à Londres. Je lui ai communiqué des ordres à cet égard, mais n'essayez pas, si vous ressentez quelque compassion pour moi, d'ébranler ma résolution. Vos efforts seraient inutiles et vous ne feriez que me causer du chagrin. Veuillez attendre pour m'écrire que Nugent ait eu l'occasion de plaider sa cause auprès de Lucille et que celle-ci ait pris une décision pour l'avenir. Encore une fois, je vous remercie de la bonté constante avec laquelle vous avez enduré mes faiblesses et mes folies. Adieu et que le Seigneur vous bénisse. Oscar. Je ne dirai rien de l'effet que me produisit tout d'abord cette lettre. J'hésite à raviver les souffrances que j'endurais pendant cette triste nuit, seule dans ma chambre, et cependant, il y a déjà longtemps de cela. Qu'il me suffise de vous dire quelle fut la décision que je pris. Je résolus d'abord d'aller à Londres par le premier train le lendemain matin pour tâcher de retrouver Oscar par l'entremise de son banquier, et puis d'empêcher le misérable qui avait accepté le sacrifice de son frère d'entrer au presbytère pendant mon absence. Cette résolution me réconforta un peu et devait me servir de stimulant pour me donner le courage de m'excuser auprès de Lucille aussitôt que je la verrai, sans trahir la douleur qui me torturait. J'avais laissé la jeune fille avant de m'aller coucher calme et heureuse et nous étions convenus, Herr Grosse et moi, de ne laisser approcher personne de cette malade au caractère si irritable. Le jour suivant, j'avais en outre un autre allié dans la personne de M. Finch qui voulut bien me prêter son concours pour empêcher Nugent d'entrer dans la maison. J'avais vu le recteur la veille dans son cabinet et je lui avais raconté tout, à l'exception de la résolution insensée d'Oscar de partager sa fortune avec son frère. Je m'arrangeai pour donner à penser au recteur qu'Oscar avait permis à Lucille de recevoir les hommages d'un homme qui avait mangé sa fortune jusqu'au dernier sou. À peine M. Finch eut-il compris ce que je venais de lui dire, qu'il me fit une harangue remarquable, mais que, par respect pour l'Église évangélique, je ne rapporte pas ici. Je partis pour Londres par le premier train le lendemain. Le soir même, je revins seul à Dymchurch, n'ayant pu réussir à exécuter le projet qui m'avait appelé dans la capitale. Oscar était venu dès le matin à l'ouverture des portes de la maison de banque. Il avait tiré des lettres de crédit pour quelques centaines de livres et avait prévenu le banquier qu'il lui ferait parvenir en temps voulu son adresse pour le cas où il voudrait lui écrire. Puis il était parti pour le continent sans laisser de traces. Je passai la journée à essayer, afin de le retrouver, les divers moyens usités en pareil cas et je quittai Londres désespéré quand je songeais à Lucille et transporté de colère en songeant au frère Dubourg. À mesure que nous nous éloignions de Londres, roulant sans secousse à travers les bois tranquilles et les champs qui bordaient la ligne, je rentrais dans mon calme habituel. Peu à peu, la fermeté et la décision qu'avait montré Oscar eurent, quoique je les déplorasse de tout mon cœur, un effet nouveau sur mon esprit. J'étais étonné et je me reprochais le jugement hâtif que j'avais porté sur le caractère des deux frères. Comme il n'y avait personne dans le compartiment pour troubler mes réflexions, j'arrivai à une conclusion qui eut une influence grande sur la conduite que je devais tenir pour guider Lucille à travers les dangers et les ennuis qui devaient encore l'assaillir. Notre physique a une influence plus grande qu'on ne le pense généralement sur les actes qu'il nous porte à faire et par conséquent sur le jugement porté sur ces actes par autrui. Un homme, doué d'un système nerveux très délicat, dit et fait des choses qui le déprécient à nos yeux d'une manière exagérée. De notre côté, un homme vigoureusement constitué possède un fond de santé et de hardiesse qui se manifeste à son avantage dans toutes les manières et qui nous le fait juger superficiellement et à faux. En effet, doué d'une bonne santé, il est gai et sa gaieté le rend sympathique à tous ceux qui l'approchent. Il peut cacher cependant, sous ce vernis de bonhomie, une âme gangrenée. Ces deux natures opposées représentaient la première Oscar, la seconde Nugent. Durant ces derniers temps, tout ce qu'il y avait de faible et d'inférieur dans la nature d'Oscar s'était montré au détriment de ce qu'il y avait chez lui de noble et de fort. Mais quelque chose avait donné à cet homme d'une sensibilité si exquise et qui avait reculé devant les petites contrariétés de la vie ordinaire dans notre village, la force de résister à un moment donné au coup terrible qui le frappait. Plus j'approchais de ma destination, et plus je m'apercevais que je ne faisais que commencer à estimer Oscar, malgré la mer des appointements qu'il m'avait causés, à sa juste valeur. Encouragé par mes réflexions, je commençai à envisager les choses sous un meilleur aspect et je résolus que tant que ce jeune homme dont je n'avais pas su reconnaître les qualités sérieuses n'aurait pas abandonné à tout jamais sa fiancée, j'emploierai toute mon énergie pour le ramener à elle. On m'apprit à mon arrivée au presbytère que M. Finch désirait me parler, mais mon anxiété au sujet de Lucille était si grande que je fis répondre au recteur que je le rejoindrai dans quelques minutes et je montai dans la chambre de Mlle Finch. « Le temps vous a-t-il paru bien long, ma chère enfant ?» lui demandai-je après l'avoir embrassée. « Au contraire, répondit-elle d'un ton joyeux, j'ai passé une journée délicieuse. Avant de repartir pour Londres, Grossin m'a mené faire une promenade, devinez où ?» J'eus un sourire qui me glaça. Je reculai d'un pas et je regardai ses traits qui étaient si beaux, sans la moindre admiration, je dirais même avec une certaine méfiance. « Où êtes-vous allé ?»«
Au sable, naturellement. »
Je crois que j'aurais étouffé de colère si je n'avais poussé une exclamation en apprenant cette nouvelle.
« Infâme grosse !» m'écriai-je en serrant les dents.
Lucille se mit à rire.
« Doucement, dit-elle, c'est moi qu'il faut blâmer. J'ai voulu à toute force parler à Oscar. Je me suis fort bien comportée dès que le docteur m'a eu donné son consentement. Je n'ai même pas demandé qu'on me retirât mon bandeau et je me suis contentée de parler à Oscar. Le bon vieux docteur, il est bien moins sévère pour moi que vous ou mon père, ne m'a pas quitté un instant pendant l'entrevue qui m'a fait un bien énorme. Allons, ne vous fâchez pas, ma chère Madame Pratolungo, puisque mon médecin a sanctionné lui-même cette imprudence. Je ne vous dérangerai pas pour m'accompagner demain au sable, car Oscar va me rendre ma visite. » Ces derniers mots me firent prendre mon parti, malgré les fatigues de la journée. Ce que Lucille m'avait dit ne me permettait pas d'hésiter. « Attendez un peu, monsieur Dubourg, me dis-je à moi-même, nous aurons un compte à régler avant que j'aille me coucher. Permettez-moi, Lucille, de m'absenter un peu pour aller parler à votre père qui m'attend chez lui. » Lucille tressaillit. « De quoi avez-vous à lui parler ? » s'écria-t-elle avec vivacité. « D'affaires qui m'ont menée à Londres, lui répondis-je en la quittant pour éviter ses questions, qui, dans l'état où j'étais, auraient fini par me rendre folle. » Je trouvai le recteur prêt comme toujours à m'inonder de son éloquence. Mais eussé-je eu affaire à 50 recteurs au lieu d'avoir affaire à un seul, je ne me serais pas senti moins en humeur d'écouter patiemment. Au profond étonnement du loquace révérend, « Je quitte Lucille à l'instant, monsieur Finch, et je sais ce qui est arrivé. »«
Minute, minute, madame Pratolungo, veuillez, avant que nous procédions, me permettre d'établir un fait important et reconnaître que je ne suis nullement à blâmer. » »«
Je le comprends parfaitement, répondis-je en lui coupant la parole. Naturellement, votre fille ne serait pas allée au sable avec le docteur si vous aviez laissé Nugent entrer dans le presbytère. »
« Arrêtez, ma brave dame !» s'écria M. Finch en levant la main droite. « Dans votre agitation fébrile, vous allez trop vite. Veuillez m'écouter. J'ai fait plus que de refuser à Nugent l'entrée de la maison. Quand ce grosseux, calmez-vous, je vous prie, quand ce grosseux est venu me parler à ce sujet, j'ai fait plus, dis-je, que de refuser mon consentement, beaucoup plus. Vous savez avec quelle fermeté je sais m'exprimer. Ne vous en alarmez pas, mais j'ai répondu « Monsieur, en ma qualité de pasteur et de père, je m'y oppose formellement. »
« Je comprends, monsieur Finch, ce que vous avez pu dire à Herr Grosse était tout à fait inutile car il ignorait entièrement à quel point de vue personnel vous vous placiez en refusant.
« Madame Pratolungo !»
Il a trouvé Lucille dans un état dangereux d'agitation causé par l'absence d'Oscar et a dit qu'il agirait d'après ce qu'il appelle sa liberté d'action en qualité de médecin.
« Madame Pratolungo !»«
Vous avez fermé la porte à Nugent, et le docteur, non moins obstiné que vous, a emmené Lucille au sable. »
M. Finch se redressa en criant de toute sa force « Silence !» et en frappant de la paume de la main un grand coup sur la table.
« Encore une question, lui dis-je, et je vous quitte. »
Depuis la promenade de votre fille au sable, il s'est écoulé un temps assez long. Avez-vous vu, monsieur Dubourg ? » Le maître de Dimchurch s'arrêta au milieu de sa bulle foudroyante. On eût dit un ballon piqué d'un coup d'épingle. « Pardon, me dit-il avec une politesse exquise, ceci demande d'être expliqué en détail. » Je n'avais pas le temps d'écouter ses explications. « Vous ne l'avez pas vu ?»« Ma position à l'égard de Neugent est singulière, madame Pratolungo. En ma qualité de père, je voudrais lui tordre le cou. En ma qualité de recteur, je sens qu'il est de mon devoir de réfléchir et de lui écrire. Vous représentez-vous ma responsabilité ? Comprenez-vous cette différence ? » Ce que je compris, c'est qu'il avait peur. Je ne puis souffrir la lâcheté, je me contentai de répondre par un signe de tête en me dirigeant vers la porte. Monsieur Finch me rendit mon salut d'un air tout embarrassé. « Vous vous en allez, madame ? » me dit-il d'une voix doucereuse. « Oui, je vais au sable. » Si j'avais répondu que j'allais à cet endroit, dont le recteur avait souvent l'occasion de parler à ses ouailles en chair, je ne pense pas qu'il aurait montré plus de frayeur et d'étonnement qu'il n'en décela quand je lui dis ces paroles. Il leva sa main droite d'un air persuasif et ouvrit la bouche. Mais avant qu'il eût pu lâcher l'écluse à son éloquence, je sortis et pris le chemin des sables.